Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David.
C'était il y a 30 ans, une semaine où les événements allaient rendre la guerre du Golfe inévitable. Puisque le 9 septembre, Gorbatchev et Bush se rencontraient à Helsinki et, évoquant l'invasion du Koweït, confirmaient leur union dans la crise et déclaraient vouloir démontrer que l'agression ne peut pas payer et ne paiera pas, tout en insistant sur leur volonté d'une solution pacifique de la crise. Le 11 septembre, Bush prononçait devant le Congrès à majorité démocrate un discours sur le nouvel ordre mondial et était ovationné 35 fois en 35 minutes, une première depuis Roosevelt au lendemain de Pearl Harbor. Enfin, le 14, l'ambassade de France à Koweït City était saccagée par des militaires irakiens, causant l'envoi d'une force de 12 000 hommes, la force d'Aguet par la France. Nous sommes en compagnie de Roland Lombardi, historien spécialiste du Moyen-Orient, auteur des 30 honteuses et de Poutine d'Arabie, publié chez VA Éditions. Roland Lombardi, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. La crise du Golfe avait commencé un mois et demi plus tôt avec l'invasion du Koweït le 2 août, lorsque l'armée irakienne envahit le Koweït en quelques heures. Les Nations Unies votant le même jour la résolution 660 qui condamne l'invasion, exige le retrait des troupes irakiennes du Koweït, engage les deux pays à entamer des négociations de paix et décide de se réunir ultérieurement pour examiner les suites données à la présente résolution. C'était bien le début de la crise.
Oui.
Et oui.
Pardon, j'ai pas compris votre question. En fait.
Oui, la crise elle a commencé un mois et demi plus tôt lorsque le Koweït a été envahi.
Oui, c'est ça. En fait, il faut rappeler que le Koweït produisait plus de pétrole que son quota autorisé, et donc ça faisait chuter les cours du brut, ce qui pénalisait beaucoup l'Irak, qui était très endetté. Et pour rembourser cette dette, Saddam Hussein, président irakien de l'époque, réclame en vain la hausse du prix du brut. Et donc, face à l'échec des négociations, il franchit le pas et il envahit le Koweït. Il applique ses menaces en envahissant le Koweït le 2 août 90.
Alors, le 25 juillet 90, donc une semaine avant, Saddam Hussein rencontre l'ambassadrice américaine à Bagdad, April Gillespie. Celle-ci, bien au fait de ce qui se prépare, elle lui dit « Nous constatons que vous avez amassé des nombreuses troupes à la frontière », lui laisse entendre que les USA n'interviendraient pas dans un conflit opposant deux pays arabes. Et le 30 juillet, une médiation est organisée à Jeddah et l'échoue. Comment expliquer ce revirement américain ? Saddam Hussein est-il tombé dans un piège ?
Alors je dirais oui et non. Vous savez, au début, les Américains ne sont pas très chauds pour une grande intervention militaire à l'extérieur. Hein. Le syndrome de la guerre du Vietnam est toujours dans les esprits. Surtout que leurs précédentes petites interventions dans la région, en Iran en 1979 et surtout au Liban en 1983, furent de véritables fiascos. Et puis on a aussi beaucoup sous-estimé Saddam Hussein, on a sous-estimé son obstination, son sens de la dignité et de l'honneur. On pensait qu'il n'irait pas jusqu'au bout, puisqu'il sort, il faut le rappeler, d'une longue guerre de 8 ans avec l'Iran, qui a rendu son pays complètement exsangue. Et voilà, donc les Américains pensent qu'il n'ira pas jusqu'au bout. Mais du côté de Saddam Hussein, lui aussi a fait des erreurs d'analyse, puisque lui aussi pensait que les Américains n'engageraient jamais une guerre contre lui, croyant qu'ils avaient trop besoin de lui pour faire face à l'Iran, à la République islamique d'Iran, qui était déjà le grand ennemi des États-Unis dans la région.
Alors justement, les Nations Unies prennent les choses en main. Il faut absolument éviter un veto soviétique. Ça explique la rencontre à Helsinki entre Bush et Gorbatchev il y a pile 30 ans ?
En grande partie, puisque la rencontre d'Helsinki, donc le 9 septembre 1990, s'inscrit dans la vieille tradition des sommets Est-Ouest. Au départ, on devait parler de l'armement conventionnel en Europe. Mais c'est vrai qu'avec la crise du Golfe et l'invasion donc du Koweït, l'état de guerre, le casus belli qui vient de se produire, va être le sujet de toutes les discussions. Alors Bush a besoin de la neutralité de l'URSS et aussi et surtout peut-être du soutien public de Gorbatchev, même si, il faut le rappeler, l'URSS est en train de vivre ses dernières heures. La guerre froide est terminée. Et Gorbatchev, lui, de son côté, a cruellement besoin des USA pour que la transition politique et surtout économique qu'il est en train d'engager en Russie se passe au mieux.
Et il a aussi besoin de l'aide du FMI et de la Banque mondiale, ce qui explique peut-être aussi son soutien, comme l'ont dit certains.
Absolument, parce que Gorbatchev veut plaire aux Occidentaux, car il a besoin de leur aide et surtout de leur capitaux, de leur investissement, pour sa réforme qui est économique, qui est en cours. Ensuite, l'Union soviétique a quand même tenté de jouer les médiateurs en essayant de faire entendre raison à Saddam Hussein. Et dans ce but, Moscou va dépêcher en urgence à Bagdad le célèbre diplomate et grand orientaliste russe qui était Evgeny Primakov. Mais ce sera un échec là aussi.
Alors, quelle est la position de la France avant le saccage de l'ambassade à Koweït City le 14 septembre ? François Mitterrand parle de logique de guerre dès le 6 septembre.
Au début de la crise, la France est gênée, car il faut rappeler que l'Irak de Saddam Hussein est un très gros client de la France, à la fois sur le plan civil et le plan militaire. Il faut rappeler aussi que les exportations françaises en direction de l'Iran, à l'époque, s'élèvent à environ 3 milliards de dollars. Il faut aussi rappeler que la France a construit la centrale nucléaire irakienne d'Ozirak, qui a été d'ailleurs détruite par les Israéliens en 1981. Et puis nous avons beaucoup aidé Saddam Hussein dans sa guerre contre l'Iran. Donc c'est vrai que la France est gênée, mais bon, les États-Unis sont le grand allié de la France. Les pressions des Américains se font de plus en plus pressantes. La propagande représentant Saddam Hussein comme le nouveau Hitler de la région va aussi jouer beaucoup. Et surtout la crainte de nos autres riches clients du Golfe, que sont l'Arabie Saoudite, le Qatar, etc., feront que Paris sera obligé d'emboîter le pas à Washington.
Cette invasion, alors jette inéluctablement l'invasion de l'ambassade de France à Koweït City, la France dans la coalition sans autre possibilité. Michel Jobert dira, que reste-t-il de la politique arabe de la France, Barbès, Rochechouart ? Ça a changé vraiment la politique de la France au Proche-Orient et au Moyen-Orient ?
C'est vrai qu'on pourrait accuser a posteriori la France de Mitterrand de suivisme et d'atlantisme, mais à l'époque, il faut le rappeler, la position française fera l'unanimité dans la classe politique. Rares seront les oppositions. La plus marquante sera la démission de Jean-Pierre Chevènement, le ministre de la Défense, qui démissionnera justement pour affirmer son opposition, et avec un certain panache d'ailleurs. Mais bon, Jobert a raison, mais il fait sa déclaration en février 91, je crois, pour critiquer l'implication de la France aux côtés des États-Unis. Mais il est un peu injuste envers Mitterrand, parce que à la décharge du président socialiste, la France ne compte plus depuis bien longtemps au Moyen-Orient. Hein.
Depuis l'intervention ratée à Suez.
Et surtout avec la nouvelle politique arabe de Gaulle, initiée à partir de la fin de la guerre d'Algérie, qui en fait nous a sorti complètement du jeu au Moyen-Orient. Et ce qui, une des dernières preuves fut la guerre du Liban, la position pitoyable de la France dans ce conflit, et surtout la résolution de ce conflit avec les accords de Taïef en 1989, où la France est complètement hors jeu. Le Liban était le symbole de l'influence française au Levant.
Le 11 septembre, Bush parle de nouvel ordre mondial, c'est la Pax Americana.
Chaque siècle a son empire, on peut dire. Bon, le siècle américain, il commence en 1918 et il se confirme en 1945. Mais à partir de 1945, il y a un rival assez important qui est l'Union soviétique, un rival économique, idéologique, militaire, stratégique. Mais là, au début des années 90, nous sommes à un tournant. Avec la chute de l'URSS, la fin de la guerre froide et surtout avec la formidable démonstration de force qui va se produire en janvier 91 avec la guerre du Golfe, nous entrons dans un monde unipolaire avec une seule superpuissance, une hyperpuissance, dira Hubert Védrine.
Qui est les États-Unis.
Qui est les États-Unis, avec tous les excès et les travers que cela peut produire.
Un basculement qui a aujourd'hui 30 ans. Merci beaucoup Roland Lombardi, historien, spécialiste du Moyen-Orient, auteur des livres Les 30 honteuses et Poutine d'Arabie. Dans la prochaine demi-heure, le livre de la semaine, L'art de la guerre idéologique, un livre passionnant de François Bernard Huyghe. Ensuite, on aura la sélection musicale de Bruno Dubois, c'est beaucoup plus léger. Enfin, on parlera du classico de ce soir, un classico un peu spécial, le PSGOM qui va jouer dans un stade quasi vide. Restez bien avec nous sur Sud Radio.